RCF.
L'heure de la justice de Dieu, histoire de Suzanne. Jacqueline Kellen, vous vous êtes passionnée pour cette histoire qui est présente dans le livre de Daniel. Bonjour.
Bonjour.
Dans un livre que vous publiez aux éditions Salvator, vous revenez sur cette histoire croquante, amusante, on pourrait presque dire, avec beaucoup de rebondissements, de suspense, d'attente, mais aussi une quête, la quête de la vérité, la quête de la justice, envers et contre tout. Ce chapitre 13 du livre de Daniel, il n'est pas présent chez les protestants et chez les juifs. Si vous leur parlez de cette histoire, ils ne sauront pas à
tout
quoi
à
vous
fait.
Faites référence. Pourquoi ?
Comme les protestants se calquent absolument sur le canon hébraïque, ouais. Donc ils sont laissés de côté. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas non plus le livre de Tobie, c'est dommage, parce que ce sont des histoires qui parlent à chacun et qui s'adressent à chaque fidèle aussi. Là, c'est un récit, bien sûr, qui est antérieur au christianisme, mais qui résonne ô combien, en effet, pour un chrétien qui, quelles que soient les circonstances, reste fidèle, doit rester fidèle à Dieu. Je ne suis pas théologienne, mais il me semble que le point délicat, c'est le fait que les deux méchants, si on peut dire l'histoire, mais plus que ça, les deux personnages odieux qui veulent déjà s'emparer de la femme d'autrui, qui portent un faux témoignage et qui ensuite veulent faire condamner à mort une innocente, donc qui violent éhontément la loi de Moïse, les commandements reçus sur le mont Sinaï, eh bien ce ne sont pas deux étrangers, deux Babyloniens, là où sont déportés la communauté juive, ce sont deux personnages de leur communauté et qui ont une responsabilité très importante puisqu'ils sont guides de la communauté et juges. Donc je me dis, là c'est quand même très subversif comme récit de dire attention, le malheur vient du peuple chez qui vous êtes déporté. Là, le malheur, c'est la brebis au milieu des loups, les loups dans la bergerie. C'est vraiment ça. Et moi, c'est vraiment une hypothèse personnelle. Donc ce n'est pas très, très honorable pour la communauté, pour ces personnes puissantes, ces personnes qui ont un pouvoir.
Ces deux anciens qui sont effectivement
comme les protestants. Voilà.
Alors cette histoire de Suzanne, en quelques mots, c'est cette femme partie en exil avec tout un peuple. Elle va quitter Jérusalem, elle va être déportée à Babylone et puis une petite communauté se refonde. Il faut à nouveau célébrer le culte, à nouveau la porter justice. Et voilà que l'affaire déraille en quelque sorte puisque ceux qui sont nommés juges cette année-là, les anciens vont être aussi ceux qui vont trahir la justice d'une certaine manière et va s'en suivre une histoire sur laquelle vous penchez, que nous avons un peu évoqué dans notre précédente émission et sur laquelle nous revenons cette fois-ci. Alors, on avait évoqué l'illusion, on avait évoqué l'apparence, on a évoqué aussi la convoitise de ces deux anciens qui portent leur regard sur Suzanne. Et s'ils sont attirés par Suzanne, il nous est dit dans ce texte, c'est parce que ils se détournent de Dieu. C'est le même mouvement d'une perversion de leur regard, c'est le même mouvement que celui qui les éloigne de Dieu.
Tout à fait. Dès le début, en effet, il est dit, voilà, c'est ils se sont détournés de l'Éternel et à ce moment-là, ils sont happés, je dirais, par le monde. Parce que le désir en tant que tel, le désir du cœur, le désir de Dieu est éminemment louable. Tous les grands mystiques parlent du désir de Dieu. Mais eux, il s'agit d'une appropriation et de céder à la facilité, à des instincts ou à des pensées tout à fait viles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce thème, en effet, majeur de la fidélité, qui est représenté par la fidélité conjugale, Suzanne n'est pas tentée par ces deux hommes plutôt repoussants et détestables qui vraiment font un abus de pouvoir envers elle et cherchent à l'intimider. La question est toujours cette fidélité au Seigneur, à savoir, vous savez, depuis Osée, au 8e siècle, la relation entre Dieu et son peuple est comparée à la relation conjugale. C'est pourquoi le thème de la fidélité de Suzanne, c'est pas elle est fidèle à son mari Joachim, c'est si elle représente bien la communauté juive, c'est est-ce que elle va rester fidèle à son Seigneur ou parce que du temps d'Antiochus Épiphane, donc au deuxième siècle où le récit a été écrit, est-ce que ils vont prendre peur, ils vont être intimidés, ils vont se compromettre? C'est le grand terme. C'est le grand terme. Le juste est celui qui ne fait aucune compromission. Il faut évoquer des expressions simples. Je ne suis pas un peu fidèle à mon mari, si mari il y a. Je ne suis pas un peu fidèle au Seigneur. Je ne crois pas un peu en la parole de Dieu. Ou je crois en Dieu ou je ne crois pas. Oui, là, il faut dire des choses un petit peu... C'est ça, la justice de Dieu, c'est tranchant. Il n'y a pas d'accommodement, il n'y a pas de rapiessage. C'est tranchant, la justice. Et c'est tranchant aussi parce que, est-ce que Suzanne est fidèle jusqu'au bout? Ou est-ce qu'elle va prendre peur, elle va se laisser intimider? Et est-ce qu'elle va donc trahir sa foi, donc se trahir elle-même? Alors, personne pure, la personne juste, la pure, c'est-à-dire sans mélange. Ouais. Hein, c'est ça, unie, une.
Alors cette femme qui est dans cette grande demeure avec son mari Joachim, tout le monde semble en quelque sorte la respecter, peut-être même l'admirer. Et puis quand arrive ce drame avec ces deux vieillards qui la convoitent et qui cherchent à la posséder, elle est conduite à un jugement parce qu'elle est accusée d'adultère faussement. Il y a l'histoire du faux témoignage aussi qui est intéressante dans cette
totale
histoire.
Totale calomnie.
Mais alors, la parole des juges n'est pas remise en cause.
Non.
Pourquoi la foule ne dit rien? Pourquoi tout le monde adhère à cette...
Mais de nos jours, c'est pareil. C'est la façon dont des personnes de pouvoir, ce ne sont pas toujours des hommes d'ailleurs, on va dire hommes ou femmes de pouvoir, impressionnent et on se laisse prendre aux apparences au lieu d'exercer le discernement, le jugement. Et c'est important parce que le discernement est une vertu et le discernement est une vertu qui repose en effet, c'est un travail spirituel. Sinon, on se laisse prendre par Léon dit, moi je pense la même chose, ou moi je ne dis rien. Enfin, c'est la confusion, la confusion de l'émotionnel ou du psychologique. Là, en effet, elle est condamnée à tort. De façon odieuse, personne ne dit rien. Et c'est ça, moi, qui me paraît absolument atroce, c'est que ceux qui sont quand même censés la connaître et l'aimer, ses parents, qui sont présents et qui seront même présents lors de ce jugement épouvantable, ce faux jugement, et son mari, alors lui, il me paraît même pire, son époux, qui vit avec elle quand même depuis des années, au jour le jour, et avec qui il a eu des enfants, eh bien, il ne fait rien. Il n'y a aucun propos qui s'élève pour soutenir ou pour venir en aide à Suzanne. Je trouve ça épouvantable. Parce que moi, il me semble que, même si c'est à tort, mais si j'aime un être, que ce soit d'amitié, ou que ce soit un enfant, que ce soit un mari, etc. Si j'aime un être, je le défends. Ma voix se lève pour le défendre et défendre jusqu'au bout. Si je n'aime pas un être, je le laisse à la merci de quelqu'un, quelqu'un d'autre ou de justement d'une institution, du tribunal. C'est absolument odieux. Et là, personne ne bronche, personne ne dit rien et certainement la foule doit déjà se délecter parce que de tout temps la foule aime les rumeurs et puis un petit peu d'animation dans la vie de tous les jours, etc. Mais ce qui est atroce aussi, c'est, mais là c'est dit en toutes lettres, bon, traduction française, à la fin, lorsque grâce au jeune Daniel, Suzanne recouvre, enfin elle n'a jamais perdu sa pureté, mais elle est réhabilitée ou elle est vraiment déclarée innocente aux yeux de tous. Eh bien, il est dit en toutes lettres, les parents et son époux se sont félicités qu'elle ait été trouvée comme femme honnête. C'était une femme bien, voyez. Mais c'est épouvantable, comme si on a besoin d'un jugement extérieur pour dire oui, finalement, elle n'a pas péché ou elle n'a pas. C'est épouvantable.
Et alors, contre ce silence de la foule, contre ce silence des siens, des proches, vous opposez le silence de Suzanne qui est celui d'une vie intérieure et d'une confiance en Dieu aussi.
Bien sûr, elle n'a pas à répliquer. Oui, mais ce silence qui s'abstient, ce silence des proches, de ceux qu'on appelle les siens, les proches, là aussi on peut se poser des questions, les proches, les frères humains, oui, bon, on peut se poser des questions, ce que ça signifie concrètement, hein, là, on a besoin dans la réalité, vous savez, quand on dit, c'est dans l'épreuve qu'on voit, qu'on reconnaît ses amis. Mmh. Là, elle peut dire que elle n'est pas simplement déportée loin de Jérusalem, elle est exilée au sein même de sa famille, des siens, des proches, c'est épouvantable. Et enfin, ceux qui ne disent rien, donc tous, de fait, ils se croient peut-être neutres, comme on dit. Là, c'est aussi un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire dans un conflit, rester neutre? Est-ce qu'ils sont neutres? Moi, je crois surtout qu'ils sont lâches. Et ça, c'est épouvantable, parce que quelqu'un qui est lâche, qui ne s'engage pas, ça veut dire qu'il pactise, là, pour le coup, avec le mensonge éhonté qui est en train de se manifester. Il pactise avec, ils sont du côté du mal et de la mort. Et, c'est la lâcheté. Et Suzanne, en effet, devant... Enfin, cette mise en scène qui n'en est pas une, mais enfin, si, d'une certaine façon, épouvantable, ce stratagème qui a été monté de toutes pièces par ces deux hommes, eh bien... Ça ne sert strictement à rien, en effet, à ce moment-là, de rester sur un plan terrestre et horizontal et humain. Elle crie vers Dieu. Le seul recours, mais c'est exactement la même démarche qu'on connaît chez Toby, en effet, qui est un peu injurié, oui, par sa femme lorsqu'il perd la vue, et à ce moment-là, il crie vers Dieu, ou la jeune Sarah aussi crie vers Dieu parce qu'elle est insultée par une servante, ça c'est dans le récit de Toby. C'est la même chose pour Job, auquel ses amis ne portent aucun recours, ou qui sont en train d'expliquer, peut-être, tu as fait ceci, tu as fait cela, enfin, bon, des discours qui ne servent à rien, et à ce moment-là, là, Job dit, bon, taisez-vous, et l'important, c'est de maintenir le dialogue avec Dieu. Mmh. C'est ça, au fond, la seule réalité, de maintenir ce dialogue vertical, si on peut dire.
Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Pour sa défense, donc, Suzanne se tourne vers Dieu, qui connaît toutes choses avant qu'elles n'arrivent. C'est vrai qu'on parle parfois du plan de Dieu. Qu'est-ce que cette expression évoque pour vous ?
Ça, c'est une grande, grande question métaphysique. Si Dieu est tout-puissant et omniscient, donc il connaît tout ce qui se passe. Donc, d'où des religions qui ont l'air fatalistes en disant, de toute façon, Dieu connaît ce qui va nous arriver, etc. Donc, pourquoi la grâce, pourquoi s'affairer, pourquoi le mérite, etc. Donc,
ça, c'est... Mais la toute-puissance de Dieu n'empêche pas Suzanne de traverser une épreuve très difficile. Ça aussi, c'est intéressant. Comment est-ce que Dieu va rester fidèle, être à ses côtés?
Oui,
mais sans changer forcément tout du cours de la vie de Suzanne.
Non, mais c'est le propre, justement. Mais on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas accepter ça, parce que c'est le thème de la justice. Vous savez, c'est comme la parabole de ceux qui sont payés autant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Bon, parce qu'on est à notre niveau, en effet, la justice, l'égalité, etc. Celui qui travaille tant, il doit tant, etc. Il doit recevoir tant. Alors que si on se met, si jamais c'était possible, d'un point de vue supérieur, du point de vue de Dieu, le maître généreux, il décide. Moi, je ne suis pas lésé puisque j'ai mon reçu. Hein. Bon, donc là, concernant la justice de Dieu... Oui, on prend toujours ces histoires de notre point de vue, bien sûr, c'est très humain. Mais la question, enfin, ce qu'on peut constater par rapport au juste, c'est que la loi, si on peut dire, en ce monde, c'est que le juste est toujours celui qui est persécuté. Les méchants réussissent, vous savez, quand on dit « ah oui, c'est toujours la canaille, il n'y en a que pour eux », etc. Et les justes, les innocents, les gentils, eux, ils ont plein de malheurs et plein d'épreuves. C'est tout à fait ça. Mais ça, c'est nos revendications humaines. Parce que la loi mystique, j'oserais dire, c'est la loi mystique, c'est toujours l'agneau innocent qui est voué au sacrifice, hein, ce qu'a montré ensuite le Christ. Donc c'est la loi mystique de ce monde, c'est le juste... sur qui repose ce monde, le juste qui doit être, en effet, non pas sacrifié, mais qui sanctifie ce monde, donc qui doit aller jusqu'au bout de sa mission. Suzanne n'est pas, elle ne dit pas « je suis une juste », elle est tout à fait discrète, mais sur elle repose, en effet, toute l'unité de sa communauté et l'alliance avec le Seigneur. Donc elle porte sur ses épaules, le juste porte un fardeau énorme, elle porte sur ses épaules, en effet, le destin de la communauté.
Thank you.
justement, vous évoquiez le Christ. Qu'est-ce que ce texte peut nous faire comprendre du Christ? C'est assez furtif et pour autant, effectivement, régulièrement, il y a quand même quelques phrases, quelques versets qui viennent nous annoncer le Christ en quelque sorte.
Oui, c'est troublant parce que le texte qui est écrit, il y a deux versions. Donc une version traduite par la Septante, donc ce sera au IIe siècle, puisque le texte date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et une autre version écrite entre 30 et 50 de l'ère chrétienne, par Théodotion. Et cette version de Théodotion, c'est intéressant parce qu'elle a été écrite avant que les évangiles même eux-mêmes n'aient été mis par écrit. Donc c'est quand même très visionnaire. Mais ce qui est riche, c'est que justement le prophète Daniel, moi il m'est très cher, le prophète Daniel, parce que lui, il envisage la rétribution dans l'au-delà. C'est lui qui parle en effet, un jour les uns se lèveront de ce pays de poussière, les uns pour l'opprobre éternel et pour le châtiment, et les autres pour la transfiguration et l'éternité. On sait que le peuple juif, pendant des siècles, s'est posé la question, mais sans vraiment la résoudre, de la résurrection ou de la vie éternelle. Et là, Daniel est un des prophètes, en effet, qui, le premier, vraiment formalise, même s'il y a eu quelque chose dans les psaumes, etc., quelques phrases, c'est lui qui atteste de cette rétribution après la mort et surtout de cette affirmation de la vie éternelle et dans la splendeur du firmament pour les justes. Donc, Suzanne qui persévère et qui reste fidèle à Dieu, en effet, est ce personnage qui préfigure le salut des justes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans des liturgies des funérailles, donc de traditions très anciennes, hein, du Moyen-Âge au moins, on dit « sauve cette âme », il y a toutes des litanies, « libère cette âme comme tu as libéré, etc. Daniel de la fosse aux lions, et comme tu as libéré Suzanne de ses juges mauvais ». C'est très tôt, 2e, 3e siècle, Suzanne est figurée sur les sarcophages, justement. Elle représente vraiment le salut de l'âme qui sort de l'enchevêtrement du monde pour accéder à la lumière éternelle. Donc la postérité est très, très grande de Suzanne.
Oui, et puis vous évoquiez la sanctification par quelqu'un qui reste juste. On lit aussi que Daniel, qui va sauver la vie de Suzanne, par son sentiment fort de justice et par l'envie de la rendre, s'écrie d'une voix forte « Je suis innocent de la mort de cette femme aussi pour venir la libérer ». Tout cela, ça fait forcément écho. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre pour notre communauté ? L'histoire de Suzanne, alors vous évoquiez la foule qui parfois, voilà, sous prétexte de neutralité, ne va pas s'engager. À quoi ce texte nous appelle comme communauté ?
Déjà en tant que singularité, soi-même, et pas d'abord la communauté, c'est soi-même. C'est, quoi qu'il arrive, rester un, rester sans compromission aucune, rester juste dans ce qu'on fait, rester tourné vers l'éternel et ne céder à aucun chantage, aucune humiliation, aucune intimidation, aucune tentation. C'est absolument héroïque.
Oui, j'allais vous dire oui, on aimerait, mais
oui, mais c'est ça, c'est la voie, c'est la voie à suivre, c'est la voie qui nous est indiquée. Oui. Ce qui est beau, alors, ce qui est intéressant, c'est que justement cette fleur unique, hein, du lys, nous on voit le lys avec des fleurs, des grappes, etc. C'est vraiment le lys sur sa tige unique. C'est intéressant de voir cette femme qui est une, sans compromis, sans division. Alors qu'il y a les deux hommes, les deux juges qui représentent notre dualité. Justement, notre côté, je suis attiré par ceci ou par cela, c'est mélangé, ce n'est pas net, je doute, je tergiverse, etc. Donc c'est le mélange, la confusion dans laquelle nous sommes. Et la confusion, c'est le mal. C'est le mélange et c'est le mal pour d'un point de vue symbolique. Elle reste une et unie sans compromission. C'est ça, en particulier, c'est le modèle, mais du juste qui, quoi qu'il arrive, en effet, ne cède pas. Et c'est pourquoi le Christ, bon là c'est une autre histoire puisque il est fils de Dieu, mais le Christ, en effet, qui sera abandonné, y compris, c'est pour moi un des passages les plus affreux de l'évangile, c'est en effet au Mont des Oliviers, quand même, ses trois disciples chers, ils ne peuvent même pas rester à l'assister, à être présents près de lui, alors qu'ils savent très bien qu'il est condamné. Donc,
mais
ils dorment.
C'est la question que vous posez dans votre livre « L'heure de la justice de Dieu ». Que pèse l'amour face au malheur ? Vous interrogez cela pour justement là, l'entourage de Suzanne, hein, qui, qui la laisse tomber en quelque sorte. Que pèse l'amour face au malheur? Belle question. Comment vous y répondez?
Oui, parce que dans le Cantique des Cantiques, on dit l'amour est plus fort que la mort. Non, la traduction, c'est l'amour peut être aussi fort. Mais est-ce qu'il est capable de... moi, ce que je ressens, c'est que on ne peut pas vivre à la place de l'autre. Ça, c'est le tragique de l'existence. Si fort je puis aimer un être, même si j'ai beaucoup d'amour, de compassion, etc., de tendresse, je ne pourrais jamais vivre son épreuve, sa maladie, et plus encore, je ne franchirais jamais les portes de la mort à sa place. Oui, mais on oublie. Hein. C'est pour ça, de nos jours, on va vite régler le problème comme on sait. Donc c'est ça la question, mais mon amour est de taille à l'aider, à le soutenir, ou à soutenir cet être aimé, dans cette traversée, en effet, dans ce grand voyage.
Il y a une question qui vous est chère, Jacqueline Kellen, dans ce livre qu'on retrouve au fil des pages, c'est la question de la vérité, du mensonge et de la vérité, comme si finalement respecter la vérité avec un petit V, ça pouvait nous conduire à la vérité avec un grand V.
Tout à fait, tout à fait. C'est cela, dans les petites choses, enfin les choses du quotidien en effet, si je commence à... Oui, à porter atteinte à la vérité, à faire des petites entailles, à faire des petits, à m'accommoder, c'est pas si grave que ça. Vous savez ce qu'on entend aussi de nos jours, oui, il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas si grave que ça. C'est épouvantable de dire ça. Une façon de, peu à peu, grignoter la vérité. Une, alors j'allais dire implacable, mais moi ça ne m'effraie pas, une, incontestable, et en effet, elle vient d'en haut. La vérité est liée à l'absolu. Alors, au moins, si nous n'avons pas la vérité en tant qu'être humain, mais que nous soyons assoiffés de cette vérité. Parce que c'est la vérité, c'est le bien. La vérité, ce n'est pas quelque chose. Alors, elle s'exprime, la justice, comme en effet un peu tranchante. Mais moi, il me semble, alors là aussi, c'est totalement personnel, puisque nous parlons beaucoup, et surtout, les catholiques parlent beaucoup d'un Dieu amour, et tant mieux, ou même miséricordieux. La tradition juive parle toujours de cette, non pas une dualité, mais cette polarité de l'éternel, qui est à la fois le Dieu de justice et de miséricorde, de rigueur et de clémence. Il y a les deux. Et la justice n'est pas du côté du mal. La justice, par exemple, pour Suzanne, la justice que fait advenir le jeune Daniel, eh bien, elle permet la vie de Suzanne. Donc la justice est miséricordieuse.
Et la justice est aussi enquête, parce que ce qui étonne Daniel, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de recherche de la vérité, qu'il n'y ait pas
tout
eu d'interrogatoire.
Tout à fait. Simplement est faussé et tout est très rapide, justement. Vous avez remarqué, quand on veut se débarrasser d'une affaire, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas, même si ça ne se passe pas de nos jours, mais c'est en effet expédié pour vite passer sous silence les choses pas net. Mais la justice, finalement, c'est elle, puisque vous dites en effet, c'est la manifestation de la vérité divine, c'est ce qui éclatera dans l'au-delà. Hein, c'est bien ce que dit déjà Daniel, le prophète Daniel. Il me semble que pendant que nous vivons en ce monde, sur terre, nous pouvons compter et même implorer la miséricorde. Et je pense que la miséricorde de Dieu s'exerce. Hein, j'espère, je pense. Mais dans l'au-delà, encore une fois, c'est personnel, mais dans l'au-delà, il me semble que là, il n'y a pas de place pour la miséricorde de Dieu. Nous serons jugés. Alors, vaut mieux s'y préparer de nos jours, pendant qu'on est encore sur terre.
Ça pose la question aussi de la sagesse, hein, puisqu'on voit Daniel est celui qui sera sage et celui qui va s'engager, celui qui va...
À ses risques et périls aussi, parce que lui aussi connaîtra, donc il sera jeté aussi dans la fosse aux lions, il va être persécuté. Le prophète est l'homme de Dieu, l'homme de l'esprit. Donc nécessairement, il n'est pas bien reçu dans un monde imparfait. À chaque fois, c'est ça, c'est cette rencontre entre un monde infini, parfait, qui a été de bonté, de grandeur, et puis notre monde qui est au mieux à la recherche d'élévation et au pire qui se complaît dans le médiocre.
Dans ce texte, il est beaucoup question de la loi de Moïse. Qu'est-ce que le Christ va venir bouleverser par rapport à, justement à cette histoire de Suzanne? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus la relire de la même manière aujourd'hui avec la venue du Christ et sa résurrection et le temps où elle a été écrite?
Ah oui, très très importante question. Moi, ce qui me paraît important, enfin ce qui me paraît plus, oui, ce qui m'apparaît le plus comme différence, c'est la notion du pardon. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de pardon. D'une certaine façon, ça nous réjouit par exemple, ou ça me réjouit concernant ces deux affreux bonshommes qui veulent condamner Suzanne et qui ont fait en plus bien avant Suzanne, qui ont perpétré des crimes. Donc il y a cela. Là, il n'est pas question de pardon. Et c'est ce qui, moi aussi, m'interroge, parce que c'est la grande question, est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce que on est obligé de pardonner? Est-ce que être moral, c'est pardonner? Ou est-ce que pardonner, ça veut dire qu'on est moral? Non, être moral, ça veut dire déjà faire le bien ou s'écarter du mal. Bon. Donc c'est vraiment la question, pour moi, vraiment le point de bascule, enfin heureux sans nul doute, de pardonner 70 fois, etc., celui qui vous a fait du mal. Là, il n'est pas question, en effet, dans Suzanne, dans cet apologue, il n'est pas question de pardon. En effet, la justice a été rendue au nom de Dieu, hein, Daniel, Dieu juge, et la vérité a été rétablie, puisque Suzanne est innocente et irréprochable. Mais après, libre à chacun, là pour le coup, est-ce que Suzanne va pardonner? Est-ce que, même à son mari, je veux dire, pas simplement aux méchants, à son mari de l'avoir laissée comme cela sans la soutenir, à ses parents, plus rien ne sera comme avant. Là, il y a ce thème aussi et qui m'est cher, c'est ce thème de l'irréversible. On croit de nos jours aussi qu'on peut rapiécer, repartir à neuf, comme on dit, ou repartir à zéro. Non, il y a des choses irréversible. Il y a des paroles que nous avons dites, tant mieux si elles étaient belles, mais des paroles blessantes, consciemment ou non, et qu'on ne pourra jamais reprendre, par exemple. Donc ce côté irréversible, je me dis, Suzanne, certes, elle est reconnue pure, vertueuse et sans tache, irréprochable, mais il y a un avant et un après ce procès.
Et en tout cas, le dernier verset de ce chapitre 13, c'est celui-ci. À partir de ce jour, Daniel devient grand aux yeux du peuple. On peut au moins partir sur cette note.
Bien sûr.
Merci Jacqueline Kellen. Vous êtes l'auteur de L'heure de la justice de Dieu, histoire de Suzanne. C'est publié aux éditions Salvator. Et vous nous parliez aujourd'hui de ce texte tiré de l'Ancien Testament. C'est le chapitre 13 du livre de Daniel qui nous raconte cette histoire de Suzanne. Merci à vous.
Merci beaucoup.